Citoyenne.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation sociale et citoyenne.
Écologie économie sociale et solidaire.
En pays nantais et au-delà.
Mégaphone, le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mégaphone. 5 ans après MeToo, à l'heure des nouvelles générations féministes et de la fluidité des genres, comment peut-on encore être un homme ? C'est la question posée par Le Grand T, qui dédie un festival entier à cette question du 31 janvier au 5 février. Et nous avons 4 invités autour de la table pour en parler aujourd'hui. Catherine Blondeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du Grand T. Vous avez donc œuvré à cette programmation avec la complicité de 2 autres invités. Sergio Cotto-Rivel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en littérature et civilisation latino-américaine. Américaine à Nantes, spécialiste des masculinités en Amérique latine, intervenant à ce titre, j'imagine, dans le master études de genre proposé par Nantes, par l'université de Nantes. Et puis, 3e personne qui est à l'origine de ce festival, en tout cas de ses cogitations à minima, Maud Raffray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des masculinités, des problématiques d'égalité femmes-hommes, plutôt. Commissaire, vous faites partie en tout cas de ceux qui ont alimenté, d'un point de vue intellectuel, conceptuel, la programmation de ce festival. Vous êtes notamment à l'initiative et coprésidente des fameuses. Et enfin, une intervenante lors de ce festival, Marion Thomas.
Bonjour.
Bonjour. Alors, je vais reprendre le tutoiement qu'on avait convenu initialement d'utiliser entre nous en te voyant. Oui, parce que moi-même, je suis soumise donc à certains stéréotypes et habitus. Donc, Marion, tu es une jeune femme, donc c'est plus facile pour moi de te tutoyer, même si après, on va généraliser. Tu es comédienne et metteuse en scène. Tu interviens avec une performance. On ne sait pas trop comment qualifier ton intervention, tu vas nous en dire plus. En tout cas, ça s'appelle « À propos des hommes, une histoire d'émotion, de masculinité et de déodorant ». Et tu as travaillé déjà beaucoup sur ces thématiques-là, tu vas nous en dire plus assez vite. Enfin, je précise qu'à mes côtés se trouve un collègue, et non des moindres, un homme, Julien Bélanger.
Bonjour.
Et oui, un homme qui s'intéresse à ces questions-là avec plein de lectures et qui pourra, en fonction de son inspiration, intervenir, que vous entendrez peut-être au micro. Et puis voilà, à la réalisation, eh bien, il y a toute une bande de collégiens qui sont en stage à Jet FM, ainsi que Eliam qui est aux manettes. D'abord, pour démarrer, quand même un petit mot, on rentrera plus dans le détail après, sur le festival Être un homme, qui s'étend sur plusieurs journées, mais il y a quand même des temps forts. On est sur plein de formes artistiques très différentes. Ça va de la pièce de théâtre, on est au Grand T, mais aussi à des mini-conférences de chercheurs, des performances, des lectures sonores. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ce qu'on peut trouver dans cette programmation du festival, Catherine Blondeau ?
Oui, alors bonjour à tous. Merci Jet FM de s'intéresser à notre projet. Le festival, en fait, s'inscrit dans une famille de manifestations que le Grand T a organisées sur des sujets de société, toujours un peu brûlants. Il y avait eu Tous et Rien sur le changement climatique. Il y a eu Nous Autres, qui était un festival sur la question du récit national, de comment écrire l'histoire sans être un ultranationaliste. Et puis, on arrive là à être un homme. Et donc, à chaque fois, le principe, c'est à la fois de mélanger les approches des artistes, des chercheurs et des activistes, c'est-à-dire 3 postures un peu différentes dans la société sur un sujet qui fait débat, qui fait souvent débat un peu vif. Et puis par ailleurs, c'est de construire le programme du festival en allant à la rencontre de la société civile, c'est-à-dire c'est pas moi, c'est pas d'ailleurs ni non plus que Sergio, Maud et moi qui avons construit la programmation du festival. Chacun apporte quelque chose et puis une rencontre en amène une autre. Et par exemple, je vais donner un exemple dans le cadre de ce festival-là. Il va se passer sur l'île de Nantes, il va se passer principalement à l'école d'architecture de Nantes et à l'école des Beaux-Arts et aussi à Stéréolux. Et il y a plus de 100 étudiants, donc des très jeunes adultes, qui sont impliqués dans l'organisation, qui vont proposer des expos, des performances, des projets divers et variés. qu'ils ont préparé avec leurs enseignants ou avec des artistes dans le cadre d'ateliers. Et donc, c'est vraiment un, je ne sais pas comment dire, c'est comme un gâteau roulé, quoi. C'est ça, on part d'un truc et puis on roule sa bosse, sa pierre, et puis petit à petit s'agrègent différentes propositions sur le sujet. Qui font aussi qu'on a beaucoup de points de vue divers sur cette affaire.
Un projet collectif, combien de spectacles en tout genre et différents, à un ordre d'idées ?
Alors, je n'ai pas compté, à vrai dire.
Je dirais au moins une vingtaine, si ce n'est une trentaine.
C'est plus une, au moins une trentaine, parce qu'il y a aussi beaucoup d'ateliers, c'est-à-dire des moments où ceux qui seraient les spectateurs sont invités à participer et à éprouver, par exemple, fabriquer un fanzine le temps du festival ou participer à un atelier de danse non genrée. C'est quoi danser s'il n'y en a pas un qui mène et l'autre qui suit, par exemple, dans des danses de couple? C'est quoi un atelier de déconstruction de la pornographie mainstream aussi? Ce serait quoi la pornographie si ce n'était pas infesté par la masculinité toxique? Il y a plein d'inscrits d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais ça plaît beaucoup ça.
Alors les ateliers, c'est sur inscription. La grosse soirée du samedi, parce que les événements se concentrent surtout sur le samedi.
Le samedi 4 février.
Là, le soir, il y a des concerts, spectacles, soirées électro, etc. Ça, c'est les ateliers, ça, c'est sur réservation, mais tout le reste est en accès libre.
Tout le reste est en accès libre, sauf effectivement les deux concerts du samedi soir. L'un qui est un concert de Dead Cabal, qui s'appelle Alpha Calypse, donc qui va célébrer par texte, mot, spoken word, la fin du mal alpha. Et on sera content de célébrer ça avec lui. Et puis, une soirée pink, donc organisée par une association qui est plus une soirée queer, avec plein de performances et de musique électro différentes également. Donc là, c'est pareil, c'est une association qui l'a organisée.
Ça fait combien de temps que vous travaillez? Enfin, vous avez mis combien de temps pour accoucher de cette programmation?
Ça prend une année à peu près, le temps de... Plus c'est collectif, plus c'est long, évidemment. Donc, mais plus c'est passionnant, parce qu'on bouge entre le début et la fin.
Et le choix de ce thème, comment est-ce qu'il s'est imposé?
Ça fait un moment qu'il circule dans l'équipe du Grand T, je dois dire. On avait failli se lancer dans le même sujet il y a 4-5 ans, juste après Tous t'es rien. Puis on avait renoncé pour différentes raisons. Et puis bon, là, c'est vrai que c'est revenu en force. C'est aussi 5 ans après MeToo, c'est aussi effectivement la question, les débats qui sont de plus en plus vifs et qui se sont avivés, j'ai l'impression, entre le moment où on a commencé à travailler sur le festival et aujourd'hui, ou bien c'est l'impression qu'on a parce qu'on se plonge dedans, donc on les voit plus. Et c'est aussi de se dire, il semblerait quand même que des choses bougent et des choses changent. Les changements, les révolutions viennent souvent des marges et des minorités. Hein. Alors, les femmes ne sont pas une minorité, mais le féminisme s'est positionné ou a été obligé de se positionner comme tel à un moment donné. Et puis, la question des genres aussi, les assos LGBT, QI, trans, etc., nous déplacent. Quand je dis nous, c'est les personnes cis, hétéros, etc. Et là, tout à coup, la question du masculin, il est remis en cause de toutes parts. Donc, qu'est-ce qu'il en reste? Et si on n'est pas si on ne soutient pas, disons, la masculinité hégémonique, toxique qu'on connaît, qui mène au féminicide, au viol, aux femmes battues, à la guerre, à la domination, à la conquête, à la colonisation, parce que c'est le bagage est lourd, hein, quand même. Donc si on ne défend pas ça, qu'est-ce qui reste du masculin?
Eh ben, c'est la question qu'on va aborder tout de suite après un extrait sonore qui va montrer un petit peu la manière dont la société se scinde aujourd'hui, voire les réactions qui se font après ces mouvements de libération. On va écouter des choses un peu difficiles, mais ce sera pour mieux les déconstruire ensemble après.
Vous faites le ménage chez vous?
Non, du tout. Du tout. Tu fais le ménage, toi?
Non.
Mais malade ou quoi?
Il n'y en a aucun des trois qui fait le ménage?
Ah non.
C'est qui le fait?
C'est ma femme.
Je pense qu'il y a un lien entre le pouvoir et la virilité.
Dans l'horloge, quelqu'un a indiqué les tâches domestiques? Ou vous pensez en faire par-ci, par-là?
Genre nettoyer la maison?
Oui, par exemple.
Et visiblement, personne n'a pensé aux tâches ménagères.
tu veux, je pense qu'une société, paradoxalement, où tout le monde est faible, c'est une société où les loups, il n'y a plus de chien berger entre eux et les moutons. Qu'est-ce que c'est qu'un chien de berger ? C'est quelqu'un qui a les aptitudes du loup, mais qui les met au service de la bergerie. Ma conception de la virilité, c'est avec cette image-là que je peux le mieux te l'expliquer.
Les filles, elles sont faibles.
Elles sont plus faibles ?
Ouais.
Toujours, toujours ?
Ouais. Parce qu'elles sont moins fortes que les garçons.
Vous venez d'entendre des extraits sonores. Alors, un reportage qui se passe à Barcelone où a été ouvert un centre d'éducation pour les hommes. Et donc là, c'est un atelier avec des hommes qui vont devenir pères et où on leur demande de colorier leur journée, heure par heure. Et voilà, aucun n'a pensé à inclure les tâches ménagères. C'est vous, Catherine Blondeau, qui avez relayé cette vidéo d'ailleurs sur votre compte LinkedIn. Il y avait évidemment, la voix d'Éric Zemmour qui incarne une certaine conception traditionnelle, pour le moins, sur les valeurs virilistes. Papacito, aussi, influenceur d'extrême droite, qui a pour modèle Poutine, Franco ou encore Saddam Hussein. Et puis une archive INA de 1978 qui questionnait des enfants sur leur perception du masculin. Merci à Iliam qui a sélectionné, arrangé ces extraits sonores. Alors justement, vous le disiez juste avant, Catherine Blondeau, que reste-t-il ? D'abord, qu'est-ce que c'est que le masculin dans une perspective traditionnelle ? Comment est-ce que vous définissez, ou est-ce que, à travers vos recherches, la virilité et le masculin avant transformation ou questionnement ?
Bon, c'est une question qui est vraiment très difficile, surtout quand on voit la quantité de travaux qui sont dédiés à répondre à ces genres d'interrogations. Et ça dépend aussi de l'endroit où on se place. Et je pense que l'intérêt, par exemple, de ce genre d'activité, du festival, c'est de donner un positionnement aussi et expliquer d'où on parle quand on parle de ces genres de masculinité ou de masculinité plurielle, tout simplement, et qui est d'ailleurs le sous-titre de festival Être un homme pour célébrer les masculinités plurielles, parce que on pense qu'il faut vraiment mettre en évidence cette diversité et qu'il n'y a pas une masculinité, une seule ou le masculin.
C'est situé dans le temps, dans une culture, un pays, voire
exactement.
Dans des moments de vie.
C'est extrêmement varié. Même dans nos sociétés contemporaines, il n'y a non plus une seule idée, une seule façon de réaliser la masculinité. Donc il faut absolument parler au pluriel et faire remarquer aussi que si on se place sur le temps long, donc historiquement, c'est aussi le cas. Et que même l'idée qu'on peut avoir d'une certaine masculinité hégémonique, comme l'a mentionné Catherine, donc celle qui prend le pouvoir ou qui est la plus visible et qui se positionne comme un modèle à suivre, elle n'a pas toujours été la même non plus. Donc même celle qu'on a l'impression d'avoir toujours vue ou de suivre depuis des décennies, des siècles, c'est une illusion discursive, ça n'a jamais existé comme tel, c'est extrêmement variable. Donc on ne peut pas se poser la question tout simplement de dire qu'est-ce que la masculinité.
Alors en tout cas on peut, on va reparler de cette variation justement, de cette diversité que vous cherchez à montrer et à faire vivre à travers le festival Être un homme. Simplement pour revenir sur la définition de la masculinité hégémonique toxique que vous évoquiez, Catherine Blondeau, je vais m'appuyer sur une revue scientifique internationale qui s'appelle Enfance, Famille, Génération, un article sur les masculinités, famille, entre transformation, où il est dit les configurations de cette masculinité en Occident ont en commun quatre thèmes fondateurs. L'antiféminité, c'est-à-dire l'impératif pour un homme d'éviter des manières d'être, des attitudes ou des champs d'intérêt associés au monde féminin. La relation d'aide, la vulnérabilité, l'expression des émotions. Deuxième point, la réussite, le statut et la performance. Le troisième, l'indépendance et la stoïcité, qui implique de demeurer en contrôle des situations et de ne pas montrer ses faiblesses, de résoudre seul ses difficultés. Et enfin, le quatrième point, l'agressivité et la témérité, qui sont des attitudes qui requièrent pour les hommes de prendre des risques, dont des risques physiques, voire d'user de violence. C'est bien le socle de la masculinité hégémonique que vous combattez quelque part ?
Moi, ce que j'ai réalisé en travaillant, parce que je voudrais dire, moi, je ne suis pas du tout une chercheuse, donc je me posais une question un peu naïve, telle que je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui reste aux hommes une fois qu'on a enlevé la virilité, et puis que MeToo est passé par là, etc. Et à juste titre, en plus, hein, je ne suis pas de celles qui disent MeToo empêche les hommes d'être ce qu'ils sont, etc. Mais, et du coup, comment les définir ? Et je me suis dit, le masque, il faut vraiment distinguer masculin et viril, en fait, parce que ce qu'on décrit quand on parle de masculinité hégémonique, ou toxique, c'est une sorte de mythe, d'idéologie de la virilité. Mais être un homme au sens, je dirais, de naître homme avec un certain taux de testostérone, etc., ou le devenir parce qu'on a été assigné fille à la naissance et qu'on décide qu'on n'est pas dans le bon corps et qu'on veut devenir un homme et devenir donc ce qu'on appelle un homme trans, et quand on est un homme, c'est-à-dire avec son appareil génital, son taux de testostérone et tout ça, choisir ou pas choisir d'ailleurs d'être hétérosexuel ou homosexuel, etc. Et tout ça, c'est des hommes en fait. Et parmi ces hommes, il y en a qui sont plus féminins, d'autres moins. Enfin, et je veux dire, moi je serais tentée de croire peut-être que les hommes adeptes de la version toxique du virilisme tel qu'on l'a imaginé ne sont pas nécessairement la majorité. Mais c'est compliqué de dire ça, parce qu'après on dit y a les bons, il y a les méchants, et ce n'est pas tellement le sujet.
Il y a la zone grise aussi.
Mais il y a une différence entre masculin et virilisme, c'est ça que je veux dire. Et je pense que... Du coup, la masculinité agressive là, que vous venez d'énumérer, c'est un modèle auquel la société oblige les hommes dès l'enfance à se conformer. Mais il y en a beaucoup qui souffrent de cette injonction, en fait, et qui sont pas du tout, qui n'adhèrent pas du tout à cette mythologie virile.
Les extrêmes de cette mythologie virile, Marion Thomas, tu la connais bien. Tu l'as étudiée, tu as suivi des groupes... Incel masculiniste sur Internet, ça a nourri une de tes précédentes œuvres qui s'appelait « Kit de survie en milieu masculiniste ». Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu le suivi que tu as fait, puis surtout la manière dont ça t'a impacté, nourri ta réflexion sur la société patriarcale.
Pardon. Oui, alors effectivement, en fait, moi, pour, à la base, c'était pour je ne sais pas quelle raison, non, pas spécialement pour écrire une pièce, mais j'ai passé effectivement, genre peut-être à peu près 5 ans à traîner sur les forums d'Incel. Donc, Incel, pour faire vite, c'est la contraction de Involuntary Celibate en anglais. Et c'est donc pour la plupart des jeunes hommes qui se définissent, qui fondent leur identité sur le fait de pas avoir de relations sexuelles ou vraiment très peu, et surtout que c'est la faute des femmes. Et donc, pour la branche la plus radicale des incels, qu'on appelle les black pillers, c'est dire que du coup, comme c'est la faute des femmes, la solution, c'est de descendre dans la rue et de tuer le plus de femmes possible. Donc ils ont pour l'instant fait une trentaine d'attentats féminicides. Il y en a un qui a eu lieu il y a, je crois, un mois... aux États-Unis. Et donc, effectivement, c'était assez violent de passer du temps avec eux sur les forums, parce qu'il y a à la fois beaucoup d'appels au viol, d'appels pour légaliser le viol, de choses vraiment assez violentes à lire, surtout quand tu es une femme. Et aussi des choses hyper tristes, c'est-à-dire que la plupart de ces jeunes garçons sont aussi extrêmement malheureux, extrêmement seuls. Et donc, j'avais ce mélange un petit peu ambigu que j'avais envie d'essayer de développer dans une pièce. Et ce qui était assez rigolo, c'est que dans cette pièce-là, quand elle a tourné et qui continue de tourner, c'est essentiellement des femmes qui viennent pour voir cette pièce. Parfois des hommes, mais souvent, en fait, c'est leurs petits copains qui les accompagnent plus ou moins volontairement. Et c'est une question que je me suis beaucoup posée, et que j'ai beaucoup posée justement aux spectateurs qui venaient voir cette pièce, en leur demandant pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas plus d'hommes qui venaient. Et il y avait quelque chose qui était vraiment de l'ordre, qui était lié au titre, je pense, où en fait les garçons et les hommes, quand ils venaient voir cette pièce-là, ils avaient peur, j'ouvre les guillemets, de s'en prendre plein la gueule. Parce que ils avaient peur qu'en tant que féministe, ce soit quelque chose qui soit très, qui accuse très très fort tous les hommes, et que c'est, j'ai l'impression, quelque chose qui est assez fréquente de se dire que, le patriarcat, où la notion de patriarcat, dans la tête de beaucoup de gens, c'est lié au mouvement de libération des femmes, mais c'est pas quelque chose qui a tellement d'importance dans ta vie à toi, par exemple, en tant qu'homme. Alors que c'est vraiment pas du tout vrai, c'est même complètement le contraire. Et justement, moi, pour la pièce que j'ai fait dans le festival Être un homme, c'est ça qui m'intéressait, c'était de voir à la fois comment les hommes souffrent du patriarcat, pardon, parce qu'ils en souffrent vraiment, et aussi comment, en tant que féministe, il y a un moment où tu peux te dire, bah, je peux être avec mes copines à une terrasse de bar et on peut réinventer le monde et on peut parler de féminisme, mais si à un moment on veut que le monde change, il va falloir aussi trouver une façon d'embarquer les hommes avec nous, parce que faut qu'ils changent en fait, il n'y aura pas d'autre solution. Et du coup, comment est-ce que tu opères ce changement-là et comment est-ce que tu en discutes ? Voilà, c'était ça qui m'intéressait.
C'est une des ambitions du festival et ça rebondit sur ton éditorial, Maude Raffray, où je te cite, hein, « J'observe des hommes et j'interagis avec eux sur les questions d'égalité entre les genres. Aucun n'est contre, ou en tout cas n'ose le dire. Ils sont même de plus en plus nombreux à sentir que MeToo transforme, voire révolutionne la conversation des sexes. Mais j'entends encore beaucoup d'hommes déplorer plus ou moins fort qu'on ne peut plus rien dire, ni faire. Et surtout, j'en connais peu qui se donnent vraiment la peine d'investir le sujet, de bousculer leur propre ligne par une réflexion documentée, une réelle écoute, des conversations sensibles, des actes concrets au quotidien. Mobiliser les hommes, Maude Raffray, vous y parvenez ? Comment est-ce que vous voyez cette question ?
Voilà, c'est un sujet difficile chaque matin quand je mets un pied par terre. Déjà, je vais peut-être resituer d'où je parle, parce que je suis à la fois engagée sur un plan... Que dirait Catherine, qualifierait d'activiste, plutôt dans des sphères associatives ou en tous les cas en n'étant pas rémunérée pour le faire. Mais je suis aussi une professionnelle de l'égalité, donc j'accompagne beaucoup de structures artistiques et culturelles qui veulent s'engager dans des démarches en faveur de l'égalité femmes-hommes, que cela concerne leur fonctionnement interne ou leurs activités, ou leur façon d'interagir avec le reste du monde, les prestataires, le public, les institutions, enfin voilà. Donc on est dans un environnement qui encourage à se saisir de ce problème, parce que MeToo a quand même fait son œuvre, parce que les institutions commencent enfin à se saisir sérieusement des sujets en posant des caps, des conditionnements, par exemple, pour accéder à certains types de financements publics. C'est le cas dans la musique, par exemple, aujourd'hui, où si on se forme pas sur la question des violences sexistes et sexuelles, on ne pourra plus déposer de dossiers de demande de subvention.
Il y a des directives européennes, ouais, hein, sur ce champ.
Oui, alors que la France a été particulièrement lente à intégrer, et d'ailleurs c'est même pas sous couvert des directives européennes qu'ils l'intègrent. Mais bon, bref. Donc mon job, c'est quand même principalement de travailler avec des équipes mixtes, puisque le secteur du spectacle de manière générale et du spectacle vivant comme enregistré est un secteur d'activité mixte, et ce qui n'empêche pas une organisation du monde extrêmement genrée, puisque il et elle ne font pas les mêmes métiers.
La technique pour les hommes, la programmation.
Voilà, et la direction. Donc Catherine fait un peu exception à l'échelle du secteur culturel, même si maintenant on s'approche du tiers, mais on a tendance à se satisfaire du tiers d'ailleurs. Le tiers, souvent dans l'esprit des gens, bah ça y est, on y est, c'est l'égalité. Bon bah non, pas vraiment.
Quand on inverse en disant les 70, voilà, c'est on ça. Voit déjà un peu différemment.
Donc quand même, pour revenir à votre question, en fait c'est une question qui m'interpelle tout le temps, parce que souvent quand j'arrive dans des structures, la plupart du temps c'est sur demande de la direction, du fait de mon propre parcours professionnel antérieur, je pense. Mais c'est pas toujours acquis que ça plaise à tout le monde de se saisir de ce sujet, évidemment. Et la façon dont on va en parler va vraiment déterminer souvent, d'ailleurs, si les hommes embarquent ou pas, même si c'est pas que l'histoire des hommes. Et j'aime beaucoup, on discutait tout à l'heure avant d'entrer en coulisses, que nous avions lu récemment les unes et les autres, Sergio sans doute avant nous, mais le bouquin La volonté de changer de Bell Hooks, et qui parle d'hommes patriarcaux et de femmes patriarcales aussi. Et c'est pour rebondir avec ce que vient de dire Marion aussi, parce qu'en fait le patriarcat n'existerait plus si les femmes n'avaient pas contribué à la pérennité du patriarcat. Il suffit de voir qui continue d'élever les enfants, qui contribue majoritairement à leur éducation, y compris à l'école. Les enseignants sont majoritairement des enseignantes, en fait, etc. Donc si toutes les femmes étaient féministes,
ou le discours d'extrême droite véhiculé par des figures féminines en France aujourd'hui.
Oui, mais même sans aller aller jusque-là. En fait, moi, il y a un truc qui m'a chiffonné tout à l'heure. Je pense qu'il est facile de tomber dans la description caricaturale d'un masculin hégémonique qui nous permet de nous conforter collectivement dans la croyance qu'il existe des monstres. Et que nous, on n'en fait pas partie, parce que personne n'a envie d'être une mauvaise, une pas belle personne, la plupart du temps. Vraiment, il y a peu de gens, je pense, qui sont motivés depuis qu'ils sont tout petits à être odieux pour le reste de la planète. Et en fait, je pense que si on commence pas à comprendre qu'on fait tous et toutes partie du problème... en fait, on met toujours à distance le masculin qui nous gêne. Et en plus, il est très classiste. Enfin, il faut avoir une approche croisée. Hein, je vais dire le mot qui
fait intersectionnel.
Mais c'est hyper important à cet endroit-là aussi, parce que sinon, c'est facile de viser l'agressivité d'hommes pauvres, racisés, tout ça, qui n'ont plus, en gros, que le corps pour exprimer. Un endroit de pouvoir dans la société. Mais il y a tout un tas d'autres formes de violence. Des hommes, d'ailleurs, les violences, quand toutes les études sur les violences conjugales le montrent, ça n'a pas de milieu social, d'éducation, de patrimoine, enfin, ça traverse tous les milieux. Mais ça, les masculinités, qu'on va dire peut-être toxiques, elles s'incarnent de manière différente. Avec des oripeaux particuliers selon la classe sociale où on est, selon la culture, le pays où on vit, selon si on vit en ruralité, en urbanité. Tout ça, on n'a pas les mêmes références, en fait. Mais ce qui compte, c'est que finalement, les valeurs du masculin vont toujours être dans l'esprit des gens plus importantes, enfin, avoir plus de valeur que celle attachée au féminin. Et quelles que soient ces valeurs, en fait. Parce que, par exemple, en Occident, on va facilement dire que le côté actif et en action comme ça, c'est plutôt de l'ordre du masculin, là où on va associer la passivité plutôt au féminin. Et c'est pas vrai en Orient. Mais en Orient, ce qui va être plus valorisé, c'est la passivité, parce que c'est associé à une forme de sagesse, de tempérance et tout ça. Donc en fait, c'est pas tant, c'est pas objectivement, enfin, je veux dire, c'est toujours ce qui est associé au masculin qui va primer, en fait. Donc selon où on est, c'est ça qu'il va falloir aller chercher, y compris d'ailleurs, pendant longtemps, le féminisme a valorisé ça, c'est-à-dire être un homme comme les autres. C'est pas valorisant encore aujourd'hui pour un homme d'être une femme comme les autres. Le jour où peut-être on pourrait penser comme ça, on aura quand même sérieusement bougé les lignes, quoi.
Sergio Cotto-Rivel, j'imagine que vous avez pas mal à dire sur le sujet, puisque vous êtes spécialiste des masculinités en Amérique latine, justement par rapport à ce que disait Maud Raffray. Est-ce que les masculinités en Amérique latine sont différentes de celles qu'on peut avoir en France, en Europe ?
C'est difficile à dire qu'il y ait vraiment une grande différence. Cependant, il est intéressant de revenir, par exemple, sur des mots comme machisme, un mot qui vient de l'espagnol, justement, et qui a été formé comme concept et comme une façon de différencier les hommes latino-américains, mexicains, des hommes blancs des États-Unis. Donc, il y a une question des races qui était là vraiment très importante. Et aussi, on parlait Maud tout à l'heure sur la question de l'intersectionnalité, parce que là, on voit aussi un exemple de plus où cette classification qu'on a fait d'un certain type de masculinité était vraiment très orientée par l'origine de ces personnes-là et comment les différencier d'autres d'une sorte de masculinité plus acceptable, plus...
policée.
Oui, ou... je sais pas, culturellement, oui, plus acceptée. Et après, d'un autre côté, et quand on voit aussi les chiffres, il y a des questions vraiment urgentes en Amérique latine sur la masculinité, le féminicide au Mexique, par exemple, qui sont des quantités énormes. Et en Amérique centrale aussi, où comment se développent les gangs au Salvador, au Guatemala, avec des questions très lié à une forme de masculinité extrêmement violente qu'il faut constamment démontrer par des actes envers, bien sûr, des femmes, mais aussi entre eux, des hommes entre eux, comment ils se comportent. Et c'est une façon de privilégier ces genres de comportements vraiment terribles et impressionnants. Quand on voit ces genres de documentaires, par exemple, sur la question et comment tout est organisé en fonction de d'une lutte de pouvoir, de montrer comment on peut aller vraiment au-dessus et se placer en une position de pouvoir, mais vraiment extrêmement violente pour démontrer la virilité. Et donc ça, on peut le voir. Et moi, je travaille surtout sur des représentations culturelles, donc c'est-à-dire comment tous ces éléments-là, on peut les voir représentés, par exemple, dans la littérature, le cinéma, et comment ces images-là sont diffusées, sont véhiculées, et comment elles sont montrées d'une manière générale. Donc on se pose la question de la représentation et comment les représentations sont présentes en général dans la diffusion des films ou des livres, qui lit ça et de quelle manière, et quelles sont les différentes formes de représenter les hommes et les femmes aussi, et les rapports entre eux dans les productions culturelles.
Et c'est en train de bouger sur ces productions culturelles et ces référentiels en Amérique latine ?
Il y a énormément d'exemples. Après, ce n'est pas forcément les exemples qui sont les plus connus. Qui sont
ça reste
plus,
une marge.
Oui, ça reste à la marge. Et souvent, quand on voit qui sont les écrivains, par exemple, ou réalisateurs qui sont les plus diffusés, les plus connus et les plus enseignés aussi, parce que c'est une question qu'on doit se poser à l'université. Et quand on crée nos programmes des cours, par exemple, on enseigne souvent les mêmes choses. Les mêmes hommes prix Nobel c'est vrai que c'est assez important d'avoir une culture de l'histoire littéraire, par exemple, mais cette histoire-là, elle va pas changer. Donc, et on peut pas continuer d'enseigner toujours les mêmes choses. Et c'est une question que je me pose pour créer, par exemple, mes programmes des cours. Et une question toute simple comme combien de femmes écrivaines sont dans mes cours-là, dans mes cours, et en quelle quantité, lesquelles, pourquoi, est-ce que c'est toujours les mêmes, ou le même exemple qu'on sort toujours, un petit exemple parmi une grande quantité d'hommes, ou si on essaye de modifier tout ça. Et ça, c'est aussi des questions vraiment importantes pour la représentation.
Catherine Blondeau, vous avez ce livre qui était évoqué tout à l'heure, tu as ce livre qui était évoqué tout à l'heure par Maud Raffray, « Se transformer ».
Ça s'appelle « La volonté de changer, les hommes, la masculinité et l'amour ». Donc c'est de Bell Hooks, qui est une afro-féministe américaine, qui est morte il y a l'année dernière, je crois. Donc elle est d'une génération, elle n'a pas 30 ans, quoi, disons, mais elle a un travail très important. Donc c'est une afro-féministe et tout son travail, l'axe majeur de son travail, c'est l'amour. Donc c'est évidemment un peu étonnant. Et l'amour comme
levier de transformation.
Oui, levier de transformation. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup impressionnée dans sa pensée, la description qu'elle fait de l'impact du système patriarcal, donc le système qui valorise les qualités qu'on a, les valeurs masculines un peu agressives là, qu'on a évoquées tout à l'heure, et système qui organise aussi la domination masculine, le privilège masculin, etc. Elle dit par exemple, les médias de masse se chargent d'endoctriner en permanence hommes et garçons en leur enseignant les règles de la pensée et de la pratique patriarcale. Si l'exigence féministe de remise en question et de renversement du patriarcat a eu si peu d'impact sur les hommes en général, c'est principalement parce que ces théories étaient avant tout diffusées dans les livres et la plupart des hommes n'achetaient pas et ne lisaient pas les livres féministes. Donc ce qu'elle raconte, c'est à la fois que ce système patriarcal qui valorise des valeurs dites masculines, comme les a expliqué tout à l'heure Maud, il est tellement implanté dans nos imaginaires que parfois on ne le voit même pas. C'est-à-dire que quand on dit à un petit garçon « ne pleure pas », on est complice de tout un système et on le coupe de ses émotions. Et c'est une des idées qu'elle développe dans ce livre qui m'a, moi, beaucoup touchée, c'est qu'elle dit que l'éducation patriarcale, le système, crée des personnes... crée des hommes incomplets, puisqu'elle les oblige à s'isoler, à s'interdire tout un champ d'émotions. Les seules émotions autorisées dans la vision patriarcale ou virile, c'est la rage et la colère. Mais sinon, toutes les autres sont à dégager. Donc, elle dresse le portrait, finalement, de personnes masculines qui sont amputées, presque mutilées par le patriarcat. Donc je trouve que c'est assez intéressant de le voir de cette manière-là. C'est-à-dire que, bien sûr, ça organise des privilèges. Hein, et c'est peut-être ça aussi qui fait que si peu d'hommes ont entrepris le travail de déconstruction de tout cet échafaudage masculiniste. Mais ça crée des privilèges, mais ces privilèges ont un coût qui est celui-là. Et puis le coût social qu'on connaît, qui se traduit par... la violence, etc.
Beaucoup plus d'hommes qui se suicident, qui sont en prison, qui vont avoir des difficultés à demander de l'aide, par exemple. Marion Thomas, c'est un livre qui vous a beaucoup, qui t'a beaucoup marqué aussi.
Ouais, grave, que j'ai vraiment adoré. Mais je voulais rebondir sur ça, c'est que pour l'écriture de ce projet, comme il se trouve que je ne suis pas un homme, je me suis dit que j'allais interroger plein de garçons qu'il y avait autour de moi. Donc à la fois des amis et des gens que je connaissais un peu moins bien. Et une de mes questions, c'était en gros, je les interrogeais sur leur rapport à la masculinité, à la construction de la masculinité. Et une de mes questions, c'était justement, ça portait sur cette amputation émotionnelle, si eux, c'est quelque chose qu'ils ressentaient, ou ce genre de choses. Alors, ils m'ont tous répondu non. Et après, quand je leur posais un peu des questions sur, disons, les sujets que tu abordes quand tu es juste entre groupes de mecs ou ce genre de choses, ils parlent jamais de leurs relations, jamais de comment ils vont, de leur travail, de. Et à un moment, il y a vraiment un très très bon ami à moi qui, je sais, a lu des bouquins sur le féminisme, qui est très très déconstruit. Il me disait si, moi je suis à fond, enfin, j'ai aucun problème pour exprimer mes émotions, je fais de la musique. Puis je dis, mais faire de la musique, c'est pas exprimer ses émotions, c'est pas mettre des mots, le mettre en conversation avec quelqu'un. Et ah ouais, t'as raison, non, en fait, je sais pas faire. Et ça m'a vraiment fait halluciner que sur la. Alors, ça a vraiment aucune valeur de généralité, hein, c'est pas du tout une enquête ou quoi, mais qu'ils avaient vraiment tout ce truc-là en commun d'être incapables d'exprimer leurs émotions. Vraiment, quoi. Je trouvais ça dingue.
Et puis, il y a cette question. Enfin, ce que ça brasse aussi, globalement, c'est aussi la question de la norme, en fait, parce que ça veut dire qu'une norme, un peu comme une chape de plomb, s'impose avec la complicité de, comme tu le disais, Maud, souvent des femmes aussi, qui éduquent leurs garçons dans la même perspective, d'être forts, d'être courageux, etc. Et tous ceux qui ne sont pas taillés comme ça, ils pensent qu'ils sont mal foutus, ils pensent qu'ils sont incomplets, ils pensent qu'ils sont incompétents. Enfin, la question de la positivité qui est attribuée à des valeurs dites masculines et sans aller jusqu'à des valeurs toxiques. Mais prenons par exemple le courage, la puissance, la capacité à protéger, la volonté d'entreprendre, la volonté de prendre des initiatives, la volonté de prendre des décisions. Mais moi, je connais plein d'hommes qui ne sont pas du tout comme ça. Et au regard de la norme masculine, c'est les femmelettes, en fait. On dit, il est mou, il est tout ça. Mais ils ont le droit.
T'as vu ce que t'as dit ?
Ils ont le droit. Mais oui, mais j'ai fait exprès.
Ouais.
J'ai fait exprès, évidemment.
Mais oui.
Et ça veut bien dire ce que. C'est quand même.
Vaut mieux être un garçon manqué que. Une femmelette.
C'est ça. Et à un moment donné, Bell Hooks dit à un autre moment un truc qui m'a beaucoup touchée aussi. Moi, elle dit les féministes se battent pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Et moi, je suis féministe. Mais elle dit, personne ne se bat pour que les hommes aient les mêmes droits que les femmes. C'est-à-dire le droit de ne pas vouloir se bagarrer, le droit d'être sensible, le droit d'etc. Enfin, qui sont considérés comme les valeurs féminines. Donc, on trouve que quand les femmes sont de ce côté-là, c'est tout à fait normal, c'est bien, elles sont comme il faut, etc. Si un homme va de ce côté-là, on s'inquiète, on se dit, quand même, qu'est-ce qui va se passer, etc. Enfin, évidemment, je caricature un peu. Mais je trouve que, de toute façon, c'est aussi les vertus des effets en miroir. Quand on essaie de voir comment quelque chose qui s'applique d'un côté, etc., c'est toujours assez intéressant. Et on n'a pas encore parlé de la question des genres, qui est aussi une branche très importante de toute cette réflexion.
Justement, on va quand même y venir. Moi, ma question, c'est le festival, justement, Être un homme, fait la place à des masculinités plurielles qui ne correspondent pas, en tout cas, à un imaginaire et à une norme majoritaire, on va dire. Mais comment est-ce que vous faites avec une programmation comme celle-ci pour, eh bien, justement, toucher un public qui ne soit pas uniquement des déjà convaincus pour venir nous questionner, nous, les femmes, sur notre complicité et notre responsabilité ou celles et ceux qui peuvent déjà se considérer comme éveillés, mais qui ont en fait encore tout un chemin à faire. Et puis sur ceux qui ne se sentent pas concernés, tout un tas d'hommes, par exemple, qui pensent que parce qu'ils ont déjà changé une couche dans leur vie ou qu'ils font parfois un peu de vaisselle, et qui ne correspondent pas à la caricature.
Ils aident.
Voilà, en tout cas, en sortant, puisqu'ils ne sont pas la caricature, le monstre que vous décriviez et qui sert parfois aussi de prétexte, pour ne pas interroger des choses plus subtiles, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Maud Raffray. Comment est-ce que d'abord, vous avez envie de toucher ces personnes-là, et comment est-ce que vous faites avec un festival comme Être un homme? Comment vous avez réfléchi ces questions-là?
Bon, forcément, la question s'adresse un peu à moi comme directrice du théâtre. Et je dirais que c'est une question qu'on se pose tout le temps, pas seulement pour le festival Être un homme. Hein. Comment faire pour toucher au-delà du petit cercle des gens qui aiment le théâtre, qui aiment l'art, qui s'intéressent aux questions qui nous traversent, etc. Bon, mais là, effectivement, c'est particulier. C'est très difficile, il ne faut pas se le cacher, parce que le simple fait de voir cette image... qui est donc l'affiche du festival où on voit toutes sortes d'hommes, des gros, des maigres, des qui ont des cheveux verts, des qui s'embrassent, des qui ont des lunettes et un pull un peu classique, mais une tête de nounours, enfin bref. Ça, j'imagine que ça doit hérisser le poil de tout un tas de gens qui se disent « Ah, on va encore nous embêter avec le fait que… » etc., etc. Donc, c'est pas simple. Je dirais que un des fils quand même qu'on tire, c'est justement de travailler avec des étudiants, par exemple, parce que même si ce sont des étudiants en école d'art,
oui, c'est pas n'importe quels étudiants, parce que là justement, on pourrait revenir dessus. Vous avez travaillé avec les étudiants donc des Beaux-Arts, de l'école d'architecture,
sciences humaines. Conservatoire, école de mode. Non.
C'est déjà un certain... Parce qu'il y a une création sonore dans votre festival. Oui. Vous avez d'ailleurs travaillé sur des ateliers avec l'association La Turbine.
La Turbine.
Là, ce sont des collégiens.
Des lycéens
sur les masculinités. Certains sont dans des quartiers qu'on pourrait qualifier, en tout cas, de moins favorisés socialement que les...
Moi, j'ai une question, là. Je vous interromps. Il y avait que des garçons, là, dans vos populations dont vous parlez?
Non.
Vous avez parlé d'étudiants, d'écoliers,
collégiens,
de lycéens. Et en fait, en vrai, je me pose la question parce que je ne sais pas si le projet de La Turbine, et c'était juste c'était d'interroger les garçons en particulier sur leur rapport à la masculinité. Vous introduisez un truc qui est très intéressant, qui est le masculin universel, n'est-ce pas? Et on ne sait pas très bien qui il y a derrière. Et pour ça, je trouve que c'est intéressant parce que ce festival, il a été construit aussi avec des filles, des jeunes femmes et des femmes, et peut-être même davantage que des hommes cisgenres, peut-être bien parce que malheureusement encore aujourd'hui, qui s'intéresse d'abord en premier lieu à ces sujets, enfin, faut quand même être réaliste, c'est d'abord celles et ceux à qui ça pose un problème principal. Donc, majoritairement des femmes aujourd'hui. Je vous laisse continuer.
Pour en revenir à la question de la fréquentation et de comment ne pas prêcher que les convaincus, je dirais quand même que le fait de travailler avec des grandes cohortes de jeunes, donc étudiantes et étudiants, même qu'on soit à l'école d'architecture ou qu'on soit à l'école de mode, il y a toujours une diversité de représentation dans un groupe de 30 personnes. C'est-à-dire, les 30 étudiantes et étudiants de l'école de mode, ils étaient franchement... Je vous le dis parce qu'on a participé à des moments de partage avec ces étudiantes, ces étudiants-là au tout début des workshops et tout ça. Et il y avait parmi eux des jeunes femmes et des jeunes gens qui tombaient des nues sur les questions. Donc, quand il y en a un du groupe qui a dit « moi, je suis non-binaire, moi, je suis trans et tout », ils ouvraient les yeux ronds. Enfin, il ne faut pas croire non plus que même au sein de la génération de 20 ans, la majorité des jeunes soient déconstruits, etc. etc. Il y a un peu de tout. Donc au moins au sein de ces groupes-là, bah, il y a la parole à circuler, des prises de conscience ont eu lieu, etc. etc. Voilà, je dirais que là, c'est le seul endroit où je peux me dire, bon, quelque chose s'est passé. Et dans le processus que Marion a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire j'interroge autour de moi, je pose des questions, bah, c'est petit, mais on ne change pas le monde, je veux dire, d'un grand coup de lame, on ne va pas tuer tout le monde et recommencer tout à zéro. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas ma vision des choses. Et je dirais que chaque artiste, je pense à un autre qui est David Humeau, par exemple, qui a travaillé, a fait un espèce de petit théâtre de guignol de tout le ridicule de l'homme qui se veut dominant. Ben je sais que lui, c'est pareil, il a cherché, il s'est renseigné, il a eu des prises de conscience. Le chorégraphe également, Stéphane Imbert, il m'a dit « Oh là là, mais moi, je sais pas trop et tout ». Puis en cherchant, il a trouvé plein de trucs, puis il a partagé avec des gens, etc. Donc, je dirais que c'est presque autant à l'endroit de la fabrication du festival. En tout cas, je le vois à l'œuvre dans l'équipe du Grand T. On est quand même 45 personnes qui ont travaillé sur le sujet et ça bouge. Voilà. Donc, c'est des petits pas, hein, je suis d'accord. Mais tous ces petits pas mis les uns à côté des autres, ça fait que quelque chose d'un tremblement sur le sujet arrive à se dessiner. Voilà. L'ambition est faible, hein, vous allez me dire, mais c'est déjà ça.
C'est un événement du coup qui a sa place dans la programmation, mais qui est quand même un temps un peu extérieur à la programmation habituelle et qui en général a un impact ou vient d'un questionnement du théâtre lui-même et qui du coup après se traduit par des choses. Donc je sais que tout c'était rien, ça va déclencher des choses sur l'alimentation, je crois, des choses comme ça. Et du coup, là, il y a déjà des réflexions sur l'impact que va avoir cette réflexion, parce que c'est plutôt une réflexion, c'est plutôt un espace pédagogique, c'est un temps bien particulier.
Bah, c'est le temps de la construction qui crée prise de conscience, c'est sûr. Et bon, bah, par exemple, effectivement, on a commencé à travailler sur la communication égalitaire, on se pose des questions sur la programmation paritaire au sein même de l'entreprise. On a mis en place des mesures d'égalité des salaires, d'égalité des temps de formation offerts aux hommes, aux femmes, etc. Donc oui, bien sûr, ça s'accompagne d'une dimension surtout autour de la parité. La question de la représentation des personnes trans, par exemple, j'avoue que jusqu'au festival, je ne me l'étais pas posée de cette manière-là. Donc ça, je ne sais pas si c'est un autre sujet, mais j'y reviens parce que, par exemple, pour moi, visionner la série d'Océan, hein, Océan saison 1 et puis Infiltré, ça a été carrément une révélation. C'est-à-dire que bon, je savais ce que c'était la transidentité, la transsexualité, mais pas si bien que ça, en fait. Donc, si ce truc, un homme trans, est-ce que c'était ça ou ça, tout ça, je ne savais pas trop. Et puis, j'ai l'impression que moi-même, je me suis formée sur ces sujets et puis j'ai pris conscience de ce que signifiait l'existence de ces communautés, comment elles avaient la volonté de se distinguer, etc. Mais comment, pour en revenir au masculin qui est notre sujet quand même, un homme trans, c'est un homme. Et donc un homme trans, bah, ça fait partie de ces incarnations plurielles du masculin qu'on évoquait tout à l'heure, que vous évoquiez aussi, et qu'on le veuille ou non, hein, parce qu'il y a plein de gens qui considèrent qu'un homme trans, ce n'est pas un vrai homme, ou je ne sais pas quoi, enfin bref, mais un homme trans, c'est un homme, voilà. Donc il y a plein de manières d'être un homme, et le choix de la transsexualité ou du transgenre en est un.
Et finalement, prendre conscience, se transformer sur ces questions d'appréhension du genre, c'est le chemin de toute une vie. Potentiellement, c'est sans fin, Sergio Cotto-Rivel, vous concernant. Est-ce que vous savez qu'il vous reste des champs à explorer sur ce thème-là, des choses encore à continuer, à déconstruire?
Oui. Justement, quand vous parliez entre vous tout à l'heure sur la question du public, qui pouvait venir. Donc, évidemment, on voudrait qu'il y ait des gens qui viennent, qui ne connaissent absolument rien à la question du genre, mais le travail à faire parmi les gens qui sont déjà dedans ou qui ont travaillé sur des questions particuliers les concernant est aussi très important. Par exemple, quand je pense à la communauté LGBT et aux hommes gays, qui se posent pas forcément la question de la masculinité et de leur place, le rapport aux femmes, par exemple, qui peut être parfois vraiment avec beaucoup de misogynie et de se placer dans des positions de pouvoir ou de dénigrer d'autres hommes homosexuels parce qu'ils sont plus féminins. Et donc utiliser les mêmes, le même discours, le même langage, les mêmes outils de domination en tant que dominé dans une situation vraiment difficile. Il y a énormément d'espace de travail sur la question des masculinités, des dominations, même avec des gens qu'on croit être déconstruits jusqu'à un certain point.
Ça rejoint donc, ce que disait Maud Raffray sur notre complicité en tant que femme aussi dans ce système, parfois, vous concernant, ou te concernant, Maud. Alors moi, sur le langage, il me reste encore beaucoup de chemin à faire sur le tu, le vous, la féminisation des noms et des termes.
La démasculinisation.
Est-ce qu'il y a un champ justement de déconstruction que tu continues à suivre ou qui t'intéresse là dans ce cheminement qui est déjà assez ancien te concernant et avancé, en tout cas Maud, en termes de densité de thématiques, est-ce qu'il y a un fil en particulier où tu te dis là j'ai pas fini d'explorer?
Alors sur rien j'ai fini d'explorer parce que sinon je meurs en fait. Ça c'est la mort, finir d'explorer. Non, on est en chemin tout le temps. En plus moi tu dis j'y suis depuis longtemps, ça dépend, à l'échelle de ma vie j'y suis pas depuis longtemps.
Ça fait combien d'années?
Je vais avoir 47 ans cette année. C'est des questions qui me traversent depuis, je sais pas, j'ai 35 ans je dirais. Jusqu'alors, pas du tout. J'ai pas du tout traversé ma vie avec cette question, la question féministe, la question des genres, la question d'être une fille ou un garçon, enfin, ou un homme ou une femme, je me l'étais pas posée, alors que bien évidemment, elle a conditionné plein d'endroits de mon parcours. Mais tant qu'on met pas, enfin, on parle souvent de chausser les lunettes du genre, moi je trouve que c'est même pas les lunettes, parce que des lunettes, on peut les poser, et puis recommencer sa vie après, comme si on n'avait pas de lunettes, en voyant moins bien, mais quand même. Donc c'est même plus des lunettes, on change de logiciel, quoi. Et du coup, c'est l'affaire de toute une vie. Parce que moi aussi, j'ai regardé la deuxième saison d'Océan que je n'avais pas encore vue. J'ai été percutée par des trucs, quoi. Évidemment, et heureusement, en fait. Je pense que c'est quand on croit qu'on sait qu'on devient con, quoi. Vraiment. Parce qu'en plus, on devient condescendant. Et c'est vraiment une question de continuum. J'aime beaucoup ce que t'as dit, Sergio, sur la question de, il n'y a pas d'un côté les gens qui sont déconstruits. En plus, moi, j'aime pas du tout ce terme qui peut pas être entendu comme quelque chose de positif. C'est comme une discrimination positive. Ça existe pas, ça. On fait une action positive, mais on fait pas une discrimination positive. Enfin, une discrimination, on lutte contre les discriminations, point. Quand on fait un truc spécifique en faveur des femmes ou de gens qui habitent dans des quartiers populaires, n'importe quoi, on fait une action positive, point. Et je trouve que les mots, c'est hyper important, quoi. Donc, je voudrais qu'on trouve autre chose que déconstruit. Mais en tous les cas, c'est toujours situé, on est dans un continuum. C'est comme le continuum des violences, c'est comme le continuum du féminin ou masculin. On est quelque part là-dedans et nous, en fait, enfin, je pense que ce festival, il a permis aussi de faire sauter peut-être la frontière de la binarité qui était l'entrée initiale en se disant bon, c'est vrai, le féminisme parle beaucoup de la situation des femmes et tout ça, et pour cause, on est les premières à être collectivement pénalisées par ce système patriarcal. Mais on parle pas assez des hommes. Mais on l'avait un peu en tête comme y a d'un côté les femmes et d'un côté les hommes, quoi. Et je pense que chez Catherine, ça a sauté, ça, très sérieusement. Mais moi, qui suis pas du tout une spécialiste des transidentités, j'ai quand même sérieusement aussi avancé là-dessus. Pour moi, c'était un sujet connexe. Mais je sens qu'il est en train de s'intriquer mieux à mon féminisme, et d'ailleurs maintenant je me présente comme activatrice d'égalité des genres et je fais plus activatrice d'égalité femmes-hommes, ce que je n'aurais pas assumé précédemment, et pas tant pour moi que pour une question de recevabilité aussi. Quand vous êtes professionnel, faut vous adresser à des gens qui vont pouvoir comprendre ce que vous racontez. Et je peux vous dire que quand j'ai commencé en 2019 vraiment à me professionnaliser, ça faisait pas l'ombre d'un doute que fallait dire femmes-hommes et pas des genres. Déjà on me disait, mais pourquoi tu fais pas la RSE? Parce que juste l'égalité des genres, enfin, femmes-hommes, ça va pas le faire, quoi. Et aujourd'hui, je parle d'égalité des genres et je suis entendue. Donc, ça bouge, oui. Mais je voulais juste terminer sur le fait que c'est pas les, enfin, je voudrais quand même pas que les femmes retiennent que c'est les premières complices du patriarcat, quoi, quand même. Parce que ce que je trouve difficile dans la mobilisation des hommes, juste pour terminer là-dessus, c'est que je sais pas comment faire pour que ils n'aient pas une propension assez, j'aime pas parler en généralité, mais j'en vois beaucoup quand même qui ont une espèce de propension à se servir, à se saisir de ce qui les arrange dans ce qu'on propose de faire sauter, et pas du tout de ce qui est foncièrement dérangeant et compliqué. Donc on entend les mecs machos là qui disent oh non, il faut pas le ménage, tu rigoles. Bah, regardons les statistiques, 75% des tâches domestiques et familiales sont assurées en France par les femmes. Donc ça concerne pas que les gros mecs machos qui se la roulent les mécaniques en société. Ça concerne quand même tout le monde en fait. Donc voilà, le polyamour c'est super. Mais peut-être d'abord essayons de dépolluer nos relations sexuelles à l'intérieur d'un couple hétérosexuel établi, par exemple. Voilà. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours en questionnement parce que je trouve que ça, c'est comme de faire sauter la binarité des genres. Je me la suis fait expliquer de nombreuses fois par des directeurs de structures culturelles. C'est tellement pratique d'aller directement à le genre, on s'en fout, en fait. Ce qui compte, c'est la personne humaine. Ah ben oui, d'accord, c'est la perspective. Mais pendant ce temps-là, ils rien quoi devant leur porte, de leur propre privilège, leur propre façon d'exercer le pouvoir au sein de leur organisation. Enfin tout ça. Voilà, je suis un peu trop bavarde sur le sujet.
Et non, c'est qu'il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire. Marion, toi, te concernant les thématiques d'égalité de genre, c'est quelque chose que tu vas poursuivre. Est-ce qu'il y a, t'as plongé dans les incels, là tu as conçu une forme ludique, hein, on peut dire pour le festival Être un homme, qui vient s'adresser directement aux hommes sur leur conception des masculinités. Est-ce que tu sais déjà qu'il y a des fils comme ça que tu as envie de continuer à tirer? Est-ce que ça va te poursuivre? Est-ce que...
Je suis une femme et je suis féministe, donc c'est des choses qui m'accompagnent depuis très très longtemps et qui vont continuer à m'accompagner. Mais puis moi je trouve ça, enfin pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, moi je trouve ça aussi quand même assez important de comment dire, d'assumer le fait que, enfin ce que je veux dire par là, c'est que un truc que je dis beaucoup aux garçons qui sont dans mon entourage et notamment ceux que j'ai interviewés sur la question de s'intéresser au féminisme et de lire des livres, d'écouter des podcasts et tout ça. Je leur disais, bah en fait, moi, il n'y a pas un seul bouquin féministe que j'ai lu et qui m'a pas dérangé, qui m'a pas percuté, qui m'a pas fait mal, parce que je me suis rendu compte qu'il y a des comportements que j'ai eus qui n'étaient pas chouettes. Le dernier exemple en date, je me suis rendu compte que je méprisais le patinage artistique et Céline Dion, et qu'en fait, probablement, je le méprisais parce que c'était un peu féminin ou je sais pas trop quoi. Alors, je travaille beaucoup sur essayer de finalement bien aimer Céline Dion et le patinage artistique. C'est un peu dur, mais je suis en train d'essayer de faire. Et voilà, de dire bon bah en fait ça oui ça percute, ça fait mal, mais c'est aussi hyper joyeux parce qu'après moi j'en parle pendant des soirées entières avec mes copines, des découvertes qu'on a faites, des trucs qu'on a lus, on s'échange des références et tout, puis c'est en fait ça peut être hyper joyeux quoi, mais effectivement ça peut être aussi un peu violent, mais en fait c'est comme ça que ça fonctionne bien quoi.
Difficile et joyeux, je crois que ça résume bien la programmation. Du grand T dans sa diversité pour ce festival Être un homme du 31 janvier au 5 février avec un gros temps fort le samedi 4 février. Toute la programmation se retrouve sur internet, sur le site du grand T, atelier et deuxième partie de soirée sur réservation. Pour le reste, c'est en accès libre. J'espère que cette émission vous aura donné envie d'explorer un petit peu cette programmation. Je vous remercie en tout cas tous les quatre. Maud Raffray, Marion Thomas, Sergio Cotto-Rivel et Catherine Blondeau d'être venues au micro. Et puis je vous signale simplement, auditrice, auditeur, que nous ferons nous-mêmes des contenus, une semaine spéciale à l'antenne du 6 au 12 février avec tout un tas des retransmissions de tables rondes qui se tiendront pendant le festival, mais aussi voilà, des capsules sonores. Et vous pourrez retrouver tout ça sur notre site internet jetfm.fr. Merci à Eliam et à ses jeunes compagnons. Il y a avec lui Marien, Guilherme, Juliette, Oumaïma et Colia, qui sont en stage à Jet FM et qui ont épaulé, ainsi que Mélissa. Et puis merci également à Julien Bélanger qui était à mes côtés.
Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation sociale
et citoyenne. Écologie économie sociale et solidaire. En Pays Nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.